des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, très très heureuse de vous retrouver une fois encore cette semaine pour vous présenter des livres plein les oreilles et les invités du jour. Gérald Cousineau, que je vais retrouver dans quelques secondes avec un grand plaisir. En début de seconde partie aussi, on va entendre la terriblement belle voix sexy de Jacques Tremblay nous parler de la Révolution française. Je vais aussi accueillir en première partie Marie-Renée Côté, à qui l'on doit un livre qui s'intitule « Mémoire d'une gardienne de prison ». Car gardienne de prison, elle fut durant 20 ans, 20 années de sa vie. Et puis, il y aura une chronique du CAEB aujourd'hui consacrée à tous les prix qui ont été remis au Québec au mois d'octobre et novembre. Alors, prix du gouverneur général, prix littéraire France-Québec, prix du Salon du Livre de Montréal, etc. Alors, on commence tout de suite avec Monsieur Cousineau. Bonjour, Gérald.
Bonjour, Clotilde.
J'adore ce titre, hein, « La tentation d'être heureux ».
Oh. Et d'après ce que j'ai compris, c'est assez fidèle au titre original, parce que je parle d'un livre italien, d'un roman italien, de Lorenzo Maronet, que je ne connaissais pas. Plus je vieillis, Clotilde, plus je découvre de nouveaux auteurs.
Ah oui, hein.
Ça ne s'arrêtera donc jamais, hein.
Alors, je vous rassure tout de suite, non. Et heureusement.
Alors, le livre est apparu en français en 2016, à peu près 300 pages. Je l'ai trouvé au SQL. Mm-hmm. Alors, c'est le troisième roman de ce monsieur et c'est son premier livre à succès. Il a obtenu deux prix importants en Italie. Alors, nous sommes à Naples, parce que l'auteur est né à Naples en 1974. Nous sommes à Naples et là, nous avons un personnage qui s'appelle Cesare Annunziata. Il a 77 ans. C'est un veuf depuis 5 ans. Il n'est pas commode, hein. C'est un vieux bougon, mais moi j'aime les bougons, hein. J'aime les misanthropes.
Oui, ben alors, oui.
Je vous l'ai déjà dit souvent d'ailleurs, hein. J'en suis un moi-même, donc il m'est sympathique dès le départ.
C'est pas moi qui l'ai dit. Hein.
Ce veuf de 77 ans a deux enfants, une fille, Sveva, qu'il appelle, qu'il traite comme une coincée parce qu'elle lui demande constamment de ne plus boire, de ne plus fumer, et un garçon, Dante, j'imagine qu'on dit Dante, qui est homosexuel, mais qui n'a pas osé le dire à son père, alors que son père le sait très bien. Alors, son père le traite de lâche. Donc, les relations avec ses enfants, c'est pas tout à fait harmonieux, disons. Mm-hmm. En fait, la seule personne qu'il supporte dans son environnement, c'est une prostituée d'une soixantaine d'années, Rossana, avec qui il s'entend fort bien. Mm-hmm. Mais sinon, là, il n'a pas beaucoup de relations sociales. Il n'est pas doué, hein. Il dit d'ailleurs qu'il est tout à fait inapte à l'écoute d'autrui. Et il va dire aussi qu'il a choisi la pire des villes pour venir au monde, Naples. Pourquoi? Parce que ici, donc, à Naples, impossible de ne pas entretenir de rapport avec son prochain. Pourquoi? Parce que le quartier où il habite est, comme on dit, grouillant de vie.
Ah oui, d'accord.
Très populaire.
Napoli. Donc,
alors, un jour, arrive dans l'immeuble où il vit, un jeune couple, la femme s'appelle Emma, et Cesare découvre très vite que cette femme est battue par son mari. Alors, un jour, il va l'accueillir, essayer de la consoler, ils vont manger ensemble, etc. Mais Emma ne veut pas dénoncer son mari. Et pourtant, c'est un batteur de femme effroyable.
Oui.
Donc, un drame va survenir et... Et là, je résume à gros traits. Mm-hmm. Le drame qui va survenir dans l'immeuble, eh ben, ça va bouleverser ou changer la vie de Cesare, qui, jusque-là, un peu renfermé sur lui-même comme une huître, eh ben là, il va se mettre à se préoccuper davantage des autres. Mm-hmm. Il va comme donner un sens à sa vie, parce que cet homme-là, je l'ai dit, bougon, bourru, estime avoir gâché sa vie. Il n'a pas su aimer sa femme, qui d'ailleurs, il l'a trompé. Mais lui aussi a trompé sa femme, donc il se fait avoir, parce qu'il apprend de sa fille que sa femme l'a trompé aussi. Là, il est mortifié en bon macho italien, il est tout à fait mortifié. Mais l'arrivée d'Emma va vraiment transformer cet homme-là. On apprend, au fond, en grattant un petit peu, mais qu'au fond, il est drôle, il est généreux.
Ah bah tiens.
Et il va, justement, s'humaniser en quelque sorte. Alors, je ne dévoilerai pas le drame, mais ce que j'aime de ce roman-là, c'est que c'est une sorte de comédie italienne, comme on disait de certains films des années 70.
Oui, qui nous manque beaucoup d'ailleurs.
Oui, je pense à Affreux, à Les Méchants, Les Monstres, Les Nouveaux Monstres, tout ça.
Oui.
Alors, c'est une comédie sur la solitude, la vieillesse, mais, je dirais, surtout sur tous ces petits riens qui font que la vie vaut la peine d'être vécue, parce que Césarée, à la toute fin, et là je dévoile pas le punch, il n'y en a pas à la fin, il va faire une liste d'à peu près 30 ou 40 choses qu'il aime au fond, mais dont il n'avait pas parlé jusque-là. Alors, cette espèce d'ours nous fait un inventaire, et j'en ai gardé quelques-uns parce que c'est savoureux, et ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Mais quand on y pense, c'est vrai que c'est beau, ces choses-là.
Alors, comme alors, quoi?
Il va dire, par exemple, j'aime les odeurs de cuisine qui se dégagent d'une fenêtre ouverte. J'aime les chiens qui passent la tête pour vous écouter. J'aime qu'un livre m'attende sur ma table de chevet. J'aime caresser du bout des doigts l'écorce d'un vieil olivier. Ben, les oliviers ici sont rares, mais quand même.
Oui, oui.
J'aime les vieilles cours où du linge est étendu à sécher. Et là, j'arrête la liste. Mais la c'est... toute dernière chose qu'il aime, il va, la toute dernière phrase du livre, il va dire « J'aime les gens qui se battent chaque jour pour être heureux. » Ben, c'est étonnant, ce credo de la part d'un misanthrope. Il a vraiment subi une transformation. Et là, il va non seulement se rapprocher des gens grâce à la femme, grâce à la voisine qu'il a connue, Emma. Oui. Grâce,
Emma. Enfin,
malheureusement, donc
oui,
elle comprend
ce qui va se passer. Oui.
Il va quand même se transformer et là, il va se remettre à l'écoute des autres. Et on croyait qu'il était un cas perdu. Il disait, moi, je vais mourir cynique et bourru. Eh bien non. Tout indique qu'il va se remettre à vivre avec ses proches, entre autres la voisine fatigante qui recueille tous les chats du quartier, dont l'appartement sent mauvais, un monsieur d'en bas qui vient le voir de temps en temps avec son fauteuil, en tout cas. Mais il s'humanise vraiment. Et c'est ça qui est beau dans ce livre. Je dis tout de suite, c'est pas un roman qui va gagner le prix Nobel, pas du tout, mais on s'en fout. Hein. C'est un roman qui fait du bien, comme certains films nous font du bien. Ouais. C'est un roman qui fait du bien. J'ai lu une critique où la dame disait, ben, c'est un peu long, c'est redondant. Moi, je n'ai pas remarqué ça du tout. Bon. Et même à la fin, j'en aurais pris encore.
Un petit peu
parce
plus.
Parce que ce personnage-là, oui, parce que moi, je l'ai dit encore, je le répète, j'aime les misanthropes. Pourquoi? Parce qu'ils me font rire. Et lui, il m'a fait rire. Il m'a fait rire parce que, à un moment donné, il se livre à une enquête policière parce qu'il voit que sa fille trompe son mari. Alors que lui-même a trompé sa femme, il se scandalise parce que sa fille trompe son mari. Alors, il va la poursuivre en taxi, c'est abracadabrant. Mais on passe constamment de l'humour à l'émotion. On est amusé, on est touché, il y a un drame, mais ça reste, à mon avis, une comédie légère, c'est vrai, mais légère dans le bon sens du terme. C'est peut-être de légèreté mozartienne, disons, pour employer un exemple, mais on est bien. On a envie d'aller à Naples.
Si j'osais, je dirais que la vieille huître a trouvé sa perle.
Oui.
Oui, il y a Jacques Tremblay qui fait « Oh, bah oui ». Oui, bah oui, bah vous en trouverez, vous, des comme ça, toujours au micro. j'ai ici un ou deux petits extraits, justement. Par rapport à l'homosexualité de son fils, si vous me le permettez. « Mon fils est homosexuel, il le sait, je le sais, pourtant il ne me l'a jamais avoué. » Je n'y vois rien de mal. Beaucoup de gens attendent la mort de leurs parents pour laisser leur sexualité s'épanouir en toute liberté. Mais avec moi, cela ne marchera pas. J'ai l'intention de vivre encore longtemps, au moins une dizaine d'années. Par conséquent, si Dante veut s'émanciper, il va falloir qu'il se fiche de l'opinion du sous-signé. Je n'ai pas la moindre envie de mourir à cause de ses préférences sexuelles. Il y a aussi justement... Allez-y, Gérald.
Non, je vais juste dire que, d'ailleurs, à la fin du livre, Dante et son père vont, pour une des rares fois de leur vie, s'étreindre. Parce que là, il y a eu un net rapprochement, parce que le père a rencontré aussi celui qui semble être le copain de son fils. Et là, ça va finir dans la rigolade. Donc, on dit, bon, il y a une autre porte bien être ouverte, là.
Et alors, parmi les choses qu'il aime, il aime, c'est encore un autre extrait, « J'aime la présence de vieilles ruines sur un champ de blé. J'aime regarder d'en haut une plage tapissée d'une kyrielle de parasols aux mille couleurs. » J'aime les vieilles chansons qui vous coupent le souffle. J'aime le crabe qui se réfugie au cœur d'un rocher. J'aime le tracé d'une cage de football sur un mur sans enduit. J'aime sentir la main d'une femme derrière ma nuque.
Oui, vous l'avez noté celle-là aussi.
Oui, vous l'aviez noté. Hein.
on aurait pu citer le dernier chapitre au complet.
Au complet.
Et c'est bien que ça finisse comme ça, parce qu'il y a vraiment une porte ouverte sur le grand air, sur le soleil.
Voilà. Alors, rappelons, Gérald, hein, Gérald Cousineau, le titre de ce livre.
Alors, c'est joliment nommé « La tentation d'être heureux » de Lorenzo Maronet, un livre que j'ai trouvé au SQLA, troisième roman de l'auteur. Et ça vous donne, pas seulement au personnage principal, mais on a le goût de porter plus attention à ces petites choses qui nous entourent et qu'on finit par oublier, malheureusement, bien souvent.
Merci beaucoup, Gérald. Je voudrais finir simplement en épelant par Maronet, parce que c'est peut-être pas évident. Alors, c'est simplement M-A-R-O-N-E, voilà. Maronet, Lorenzo, L-O-R-E-N-Z-O pour le prénom. Et Gérald, je vais pas... sûrement pas vous faire l'affront d'épeler votre nom et votre prénom. Toujours un bonheur, mon ami, de vous entendre.
Au plaisir.
Toujours un bonheur. Alors, et je vous souhaite, je nous souhaite que vous découvriez encore beaucoup d'auteurs.
Oui, ça devrait arriver dans les semaines qui viennent. C'est une machine qui tourne sans cesse.
Parfait. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup,
Pareillement,
Gérald.
Pareillement, au revoir.
Je vous propose, avant d'accueillir notre prochaine invitée, qui s'appelle Marie-Renée Côté, je vous propose d'écouter ce que je trouve être une des plus belles chansons, certainement, d'Yves Duteil. Ça s'appelle « Le mur de la prison d'en face ». Et on écoute ça maintenant, juste avant de rencontrer Marie-Renée Côté.
Regardant le mur de la prison d'en face, j'entends tous les ragots et les bruits des autos. Boulevard Arago qui passe sur les toits des maisons qui servent d'horizon. Un bout de la tour monte. Vers où voient les gens dans les maisons d'en face. L'été, les marronniers les cachent aux prisonniers et les bruits du quartier s'effacent. Quand l'école a fermé, combien ont dû penser au jour de la rentrée. Regardant le mur, j'imagine à sa place les grillages ouvragés d'un parc abandonné, explosant de rosiers d'espace. Les grillages ouvragés d'un parc abandonné où les arbres emmêlés s'enlacent. Regardant le mur de la prison d'en face, le cœur un peu serré d'être du bon côté, du côté des autos, je passe. Et du toit des maisons qui ferment l'horizon, un morceau de la tour dépasse.
Oui, magnifique chanson d'Yves Duteil. Moi, c'est une chanson qui m'a toujours particulièrement touchée. Le mur de la prison d'en face, que vous aurez peut-être reconnu. Évidemment, ce n'est pas par hasard si j'avais décidé de diffuser cette chanson-là. C'est que je reçois aujourd'hui, je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé un petit peu plus tôt, Marie-Renée Côté, qui est l'auteur de Mémoire d'une gardienne de prison. Bonjour Marie-Renée.
Bonjour.
Marie-Renée, très belle femme que vous êtes. Je le dis pour les gens qui ne vous voient pas, très, très féminine, très élégante, très souriante. La dernière personne qu'on peut imaginer dans une prison, dans son uniforme, c'est vous. Et pourtant, vous l'avez été pendant 20 ans.
Ouais.
Première question évidente. Comment devient-on gardienne de prison et surtout pourquoi? Quoique, si je peux me permettre, la réponse vous nous la donnez en page 17 et je vous lis. Pour ma part, je voulais aider les gens.
Oui, et après, premièrement, pour votre première question, c'est un choix de carrière que j'ai fait dès la quatrième secondaire. Donc, j'étais attirée par le côté du milieu de l'esthétique et je voulais aussi devenir gardienne de prison, mais c'est quelque chose que je voulais pas vraiment approfondir parce que je me disais ça doit être difficile ou peut-être que mes parents seront pas d'accord ou quoi que ce soit, mais comme j'ai une personnalité très forte, j'ai assumé ça. Et mon secondaire 4, mon secondaire 5, j'ai visé ça et je suis partie au cégep en intervention pour aider les gens, mais je me suis rendu compte avec les stages que j'ai fait au cégep que je voulais plus aider les victimes. Donc, surveiller les criminels.
Ah, ce qui est fantastique, c'est que c'est d'une clarté, quoi. Dans votre esprit, c'était limpide.
Oui.
C'est-à-dire que je vous imagine adolescente sur les bancs du cégep, tout ça. Bon, quand on vous demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, vous répondiez
oui,
je vais être gardienne de prison.
Oui, parce que je savais que je serais beaucoup plus confortable avec un uniforme qui m'identifierait très clairement dans mon rôle. J'avais 17 ans, 18 ans, 19 ans. Je me voyais pas travailler avec des jeunes en difficulté de mon âge parce que la distance est pas assez grande. Je voulais aussi assumer le fait que j'étais jeune, donc vis-à-vis des gens qui ont une carrière criminelle, qui ont un certain âge, donc de se transformer en gardien, ça nous donne un peu plus de crédibilité que si on arrive dans une salle à faire de l'intervention. Donc,
je
le
comprends.
Côté sécuritaire me protégeait avec mon jeune âge et aussi avec le fait que j'étais une fille.
Oui,
que j'étais
pas trop grande, pas trop grosse, et
blonde et tout ça. Donc, je savais très bien que je plaçais des bonnes choses à mon avantage.
Vous parliez de l'uniforme, il est important, il est moins, vous dites à un moment donné d'ailleurs dans une des pages, hein, c'est plus le même qu'avant, il fait moins office d'autorité pour ceux qui le voient, mais par contre pour vous, dès l'instant que vous l'endossez, on vous prévient bien à votre premier stage, dès l'instant que tu endosses cet uniforme-là, tu deviens ce que tu as voulu devenir, tu n'es plus la femme de l'extérieur, tu es celle qui est vraiment en dedans avec les autres, c'est comme ça.
Oui, et endosser un uniforme avec ce que ça comporte, c'est pas facile, parce qu'on peut l'endosser puis pas nécessairement prendre tous les traits qui viennent avec, mais moi c'était très important que mon comportement reflète vraiment mon allure.
La rigueur.
Oui.
Hein, quelqu'un de très rigoureux, discipliné, mais non violente, évidemment pas, sauf qu'il y a des situations où il faut quand même, comme dirait l'autre, être drôlement... Il faut mettre ses culottes.
Il faut être prêt à tout,
parce que tout peut arriver, c'est ça. Et en plus, on compte sur vous. Et donc, il y a ça aussi, dès l'instant, et vous êtes comme ça, et ça aussi, vous le dites dans les premières pages, lorsqu'il y a un événement qui se passe dans la prison, c'est une prison pour hommes, je le précise, vous avez toujours été
dans des pénitenciers fédéraux.
Dès l'instant qu'il y a un événement, on compte sur vous, donc il ne faut pas se poser de questions.
Non.
Il faut y aller.
Oui.
Hein, c'est bien ça. En page 38, j'ai noté, pas évident d'être une femme dans ce milieu d'hommes, mais j'ai noté aussi, à un moment donné, vous n'êtes pas particulièrement féministe.
Non.
Hein? Mais quand même, vous dites en page 38 qu'évidemment, parce que là, on travaille dans le trou. Alors, vous travaillez dans le trou aujourd'hui, hein, je vous cite, « Même si les officiers n'aiment pas plus qu'il ne faut le fait d'être jumelé avec une femme dans ce secteur, je prends mon poste. »
Oui. Parce que je suis pas féministe, probablement parce que j'ai été élevée dans une famille où ma mère a jamais été obligée de se battre pour prendre sa place. Elle l'a toujours prise, d'ailleurs, parce qu'elle a beaucoup de caractère. Donc, ça n'a jamais été un conflit de valeurs chez nous, de savoir si les femmes avaient leur place autant que les hommes. Donc, on a chacun notre personnalité. J'ai une sœur, deux frères, et on a tous fait notre chemin sans cette barrière-là. Je pense qu'on n'a jamais eu à se poser de questions. On prenait notre place, puis les débats qui se passent là-dessus autour de nous. Moi, ça, je trouve ça important, mais ça ne m'atteint pas. Ça vient pas me déranger.
Je comprends.
Parce que je pense que chaque personne doit assumer qui il est, avec ses forces, ses faiblesses. Il y a des choses, des fois, qui nous intéressent plus que d'autres.
Ah oui.
Le fait que j'étais une femme dans ce métier-là, à prendre mon poste avec des hommes qui probablement pensaient des choses affreuses sur les femmes en général, ben, ça me dérangeait pas, ça m'intimidait pas.
Autant du côté de vos collègues qu'évidemment du prisonnier.
Oui, effectivement. C'est ce qui a été le plus dur dans l'adaptation, les liens avec nos collègues de travail qui, beaucoup d'entre eux, sont très, très, très machos.
Ça a été plus difficile, finalement, peut-être, que pour les... Ah oui?
Oui, parce qu'avec les détenus, on connaît notre place, on connaît notre limite. Avec nos collègues, les limites, si on les met pas claires, ben tout le monde empiète, puis ça
Bien
devient,
sûr.
À un moment donné, le chaos.
Vous parliez de vos parents. Je rappelle aux auditeurs qui se joindraient à nous que je parle avec Marie-Renée Côté, auteure de Mémoire d'une gardienne de prison, un livre qui est maintenant, qui a été lu ici chez Vues et Voix et qu'on peut retrouver via le SQLA en version audio adaptée. À un moment donné, vous leur faites visiter la prison où vous venez d'entrer un petit peu plus tôt.
Oui.
Pour votre père, c'est pas facile.
Non, non.
Est-ce que pour vous, c'était essentiel de leur montrer l'environnement, votre environnement de vie professionnelle? Pourquoi avoir choisi de leur faire visiter cette prison?
Moi, j'étais fière de ce que je faisais.
OK.
Donc, j'ai toujours dit que c'est un métier qui est très... très méconnu, mais essentiel dans notre société. Et ça démystifie beaucoup quand les gens viennent voir où est-ce qu'on travaille, quelles sont nos tâches, comment on est installé, comment ça peut être aussi un peu lugubre, un peu... C'est difficile parce qu'on passe des longues heures seul, entouré de ciment. Ça sent le ciment, il fait noir.
Ça sent d'ailleurs toutes sortes de choses.
On a des armes à feu. On prend conscience du danger. Je crois pas. Un gardien me dirait qu'il pense pas à ça quand il travaille. Je le croirais pas.
Non.
Parce que c'est toujours présent. C'est comme l'atmosphère. C'est important, l'atmosphère.
Bien sûr.
Mais il y a toujours quelque chose qui nous rappelle qu'on est là.
Est-ce que vous vivez avec la peur, toujours? Est-ce qu'on vit avec la peur, toujours,
quand
on fait ce métier-là?
Oui, mais on s'adapte, l'humain s'adapte. Mais je vous dirais que aussitôt qu'il arrive quelque chose, le courant qui se passe dans la colonne vertébrale est très, très, très rapide parce que ça monte directement à l'adrénaline, directement.
À un moment donné, vous avez eu peur, oui, mais pas pour vous directement, parce que c'est votre fille, votre petite fille, hein, parce qu'à un moment donné, vous avez quitté cet environnement-là pour mettre au monde une enfant, une petite fille. Quand vous êtes revenu, il y a carrément un prisonnier qui a proféré des menaces à l'endroit de votre petite fille. Ça, c'est terrible à lire et à prendre.
Les menaces, mais ce genre de menaces-là, tous les gardiens ou gardiennes l'ont entendu au moins une fois dans leur carrière. Parce que la meilleure façon pour un détenu d'atteindre un gardien, c'est de le menacer en parlant de sa famille ou en parlant de ses enfants ou où les enfants vont à l'école, etc. C'est une façon que les criminels ont pour intimider la police, les juges, les avocats, n'importe qui. Donc, sous cet angle-là, j'étais pas surprise que ça m'arrive, mais je savais très bien qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour faire comprendre à ce détenu-là que j'accepterais jamais... qui s'en prennent, parce que connaissait pas ma petite fille personnellement.
Non, c'est ça.
Mais il avait entendu parler que j'avais
enfant. Bien sûr. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ça, on est facile à retracer.
Donc, il a essayé, puis ça a fonctionné à sa façon, mais je me suis très bien défendue.
Comment on fait, évidemment, c'est sûrement une question de fille qui n'a jamais travaillé en dedans, comme on dit, mais comment on fait pour être bien en dehors? Comment on fait une fois que la porte est refermée? Pour oublier ce qui s'y passe. D'ailleurs, ce n'est pas toujours évident. À un moment donné aussi, vous en parlez en page 133 ici. Quand je m'arrête à penser à nos détenus, mes sentiments s'embrouillent.
Ouais.
Il y a des jours où certains problèmes comme la violence, la misère humaine, la maladie mentale, les revers de la toxicomanie deviennent lourds pour les muscles qui me permettent de sourire.
Oui. Au début, on se croit plus fort que tout. Mmh. On est jeune, mais avec les années... On se rend compte que souvent, on boit plus d'alcool, on se referme, on fait moins de sport, on travaille beaucoup plus, on fait du temps supplémentaire. On voit que des gens avec qui on travaille. On ne lit pas, on n'a pas d'activité sociale. C'est vraiment très, très lourd. Qu'est-ce que ce milieu fait? J'ai beaucoup d'amis dans la police. C'est la même chose. Si on ne prend pas soin de nous et si on n'accepte pas de voir l'influence que ça peut avoir dans nos vies, c'est très, très néfaste.
Et, faut être plus fort que ça encore.
Moi, je me suis rendu compte à un moment donné, à la fin de ma carrière, que j'étais plus capable d'être bien quand je sortais.
C'est ça.
Ça me suivait beaucoup, ça me suivait partout et ça nuisait à mes enfants.
Et ça, ça veut dire arrête.
Oui. Oui.
Et d'ailleurs, quand vous avez arrêté, j'ai trouvé ça vraiment très joli. Vous avez en guise de dernier chapitre quelques termes qu'on retrouve et chaque terme est associé à une petite histoire. Et je voudrais qu'on finisse ensemble sur celle-ci, le sentiment du devoir accompli. Et vous écrivez, je termine avec ce dernier moment lourd de sens et hilarant, mais qui, pour le détenu concerné, était plus troublant que drôle. À sa libération, après 16 ans de détention, je l'ai accompagné jusqu'à sa porte. Son père, jusqu'à la porte, pardon, de la prison. Donc, son père est venu le chercher. J'ai serré la main du détenu en lui souhaitant bonne chance. On dit bien après 16 ans. Et j'ai aussi dit à son père qu'un des défis que j'avais lancé à son fils était de demeurer dans la société pour prendre bien soin de ses deux parents. Histoire de leur rendre un peu ce qu'il lui avait donné. Son père m'a remercié pour tout ce que j'avais fait pour son fils. J'ai accepté ses remerciements avec sincérité. Avant qu'il parte, je demandais au détenu en riant, bien sûr, ta cassette est-elle bien dans les effets personnels? C'était la cassette de la chanson Le Screw de Richard Desjardins.
Oui, qui 13 ans auparavant avait fait... Un incident entre lui et moi à cause de cette fameuse chanson bannie des ondes radio.
Bien sûr.
À cause de la violence.
À cause de la violence.
Qui,
vous en avez revu parfois, dehors?
Oui. Toutes les fois que je viens en ville, je croise quelqu'un que j'ai connu à l'intérieur des murs.
Vous leur parlez? Vous vous parlez?
Des fois, oui. D'autres fois, je veux pas qu'ils me voient.
Non.
Non, dépendamment de la personne, ouais.
Je vous remercie beaucoup d'avoir écrit ce livre au nom de toutes les personnes comme moi qui finalement sont peut-être des passionnés de Unité 9, mais bon, Unité 9, hein, c'est un peu les bisounours à côté quand même. donc, merci pour ce témoignage. C'est un témoignage pur, cru, vrai. C'est la réalité, avec aussi les moments de rire, parce qu'il y en a. D'ailleurs, vous le dites aussi à un moment donné dans ce livre, quand le rire n'a même plus sa place du tout, même en prison, là, ça devient complètement intenable. Et puis, une pensée peut-être pour ceux qui sont en dedans, puisque là, on est en décembre, hein, c'est bientôt les fêtes. Et vous dites que Noël, ça a toujours été un moment très difficile pour les détenus.
C'est très difficile, oui.
Mais moins encore que la fête des mères.
Oui, c'est la fête des mères, la fête la plus triste.
Pour les murs, quand on est en dedans. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Renée Côté. Je vous recommande donc de lire ce livre, d'aller vous le chercher, Mémoire d'une gardienne de prison. Bonne fin de journée.
Merci à vous aussi.
Des livres pleins les oreilles, la suite.
Alors, début de la seconde partie de cette émission. Dans quelques minutes, je vous lirai, comme le veut la tradition, un extrait du livre de Madame Marie-Renée Côté, qui est maintenant partie, Mémoire d'une gardienne de prison. Mais juste avant, je voudrais me tourner vers Jacques Tremblay. Bonjour Jacques.
Bonjour Clotilde.
Vous aussi, hein, toujours. Finalement, j'ai la vieille garde aujourd'hui, si je peux me permettre. Gérald Cousineau, Jacques Tremblay. Mais quand je dis la vieille garde, c'est le mot garde qui est intéressant.
Mais
c'est pas le mot... De toute façon, ce n'est pas le mot vieille.
Je ne parlerai pas de moi, mais je dirais qu'à propos des interventions de M. Cousineau, c'est une vieille garde, mais qu'on pourrait appeler une garde sûre. Une valeur sûre.
C'est exactement de cela dont je voulais parler. Vous avez mis les mots sur ce que je pensais en parlant de la vieille garde. Ouais. Les gens qui sont sûrs, tu les appelles, puis tu sais qu'ils vont être là.
En tout cas, tu sais qu'ils sont vieux.
Oh.
Parce qu'ils sont de la vieille.
Ben là, sont-ils plus vieux que moi? Je n'en suis pas si sûr.
Passons.
Alors, la révolution. La Révolution française.
La Révolution numéro 2, dans le fond. Le livre dont je vais vous parler, que j'ai enregistré il y a quelques mois, est de Hilary Mantel, une Britannique, je crois, qui a écrit Révolution 1, qui s'appelait L'Idéal, une brique de 600 pages, qui traite de la Révolution tranquille. Alors, la première partie, ou le premier tome, portait pour titre L'Idéal. Bref, c'est la Révolution comme telle, le renversement de la bourgeoisie, etc. Donc, on peut rêver. Mais la deuxième partie s'appelle Les désordres. Et on sait que dans l'histoire de cette révolution, il y a eu ce qu'on a appelé la période de la terreur qui a suivi le renversement de la bourgeoisie et de la royauté.
Paris
surtout.
Sentait le sang.
Et c'est de cette période-là dont il est question dans ces pages-là. Et je dirais que j'aurais aimé ça le lire deux fois. C'est ce que j'ai fait pour venir vous en parler. Parce que c'est un livre touffu qui n'est pas écrit sur le mode des historiens qui traitent de telle année, de tel événement, de tel édit, de telle disposition législative et tout. C'est, on pourrait dire, la vie intime de trois personnages qui sont, vous connaissez Georges.
Georges Jacques.
Eh bien, on parle de Georges Jacques pour parler de Danton.
Georges Danton, c'est ça.
Voilà. Et on parle de Maximilien.
Robespierre.
On parle de Robespierre. Et on parle de Camille.
Pour parler de
Desmoulins, qui est un journaliste qui était d'avant-plan. C'était vraiment un journaliste d'avant-garde qui était mêlé, qui était proche d'un peu tout le monde, y compris de Louis XVI. Il rencontrait Louis, etc. Alors, c'est les relations entre ces personnages-là en lien toujours avec l'actualité de la Révolution. Alors, on a parlé de l'époque de la Terreur. Donc, des exécutions massives sur la place de la Révolution, l'invention de guillotin qui a servi comme, comme jamais, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais c'est un peu comment ces personnages-là se rencontraient, échangeaient, s'entrechoquaient jusqu'à un certain point.
Parce que Robespierre et Danton, c'était pas le grand amour.
Ça a été une alliance stratégique au moment de la Révolution, mais par la suite, ça s'est dilué. Et c'est un peu l'histoire de cette dilution-là avec la place de Camille Desmoulins qui alterne, qui va de l'un à l'autre, qui finalement sera identifié au camp Danton. Et Robespierre, à un moment donné, prendra la décision de les faire passer du côté de la prison et du côté des exécutions, qu'on pourrait qualifier de sommaires aujourd'hui, parce que ce sont des exécutions qui ont suivi des procès où les droits de base de tout défenseur n'ont pas été respectés.
Non, exactement.
Mais c'est en fait une façon de voir la dynamique révolutionnaire ou post-révolutionnaire extrêmement intéressante, mais tellement touffue. Je me rappelle, quand je l'ai lu, j'avais beaucoup de difficultés à suivre. Moi qui n'étais pas plus familier qu'il faut avec.
Et quand on dit quand
la
vous l'avez lu à voix
française.
Haute, parce que c'est vous qui l'avez lu ici, à vue et voix, pour les auditeurs.
Okay. Oui, oui. Et j'imagine que, je ne sais pas qu'est-ce que les auditeurs, comment ils le reçoivent. Moi, je sais qu'en le disant, ça a été extrêmement difficile parce qu'il y avait beaucoup de dialogues. Il y a beaucoup de dialogues puisqu'on est dans l'intime. Ouais. Donc, des échanges entre, ça pouvait être entre Danton et la femme de Desmoulins, par exemple, qui fut sa maîtresse pendant un certain temps. On apprend des choses comme ça. Entre Desmoulins et Robespierre sur la raideur de Robespierre et finalement une espèce, une espèce de foi en la vertu, en la pureté. Donc,
on l'appelait le curé d'ailleurs, je pense. Il me semble qu'on
le présente dans ce livre-là comme étant quelqu'un qui a la foi, mais pas nécessairement dans la foi d'une église.
Non.
Donc c'est pas du tout un catholique, un chrétien ou quoi que ce soit.
Mais c'est un austère.
Mais c'est un austère qui croit en un être supérieur et qui réussit à faire passer une résolution à la convention, à l'effet que la France repose sur la foi en un être supérieur, mais sans imposer une religion. Ouais. Alors ça ne fait pas du tout l'affaire de Danton, qui est plutôt un jouisseur.
Un jouisseur. Alors lui, c'est la truculence totale.
C'est la truculence totale. Et ce qui est assez amusant, que, en relisant, j'ai réalisé que l'affaire Weinberg, qui a fait éclater toute l'actualité autour des abuseurs sexuels, et puis ensuite il y a eu les nôtres, bien sûr. Eh bien, Danton, c'était un Weinberg.
Absolument.
Et c'est la découverte que Robespierre fait à un moment donné qu'il a violé la fille de son propriétaire. Il demeure chez les Duplay, enfin rue de, je ne me rappelle plus quoi. Et il a abusé de Babette. Et quand Robespierre apprend ça, c'est l'élément déclencheur qui fait que Danton passe de l'autre côté.
Absolument.
Et devra...
Oui, 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 oui.
Mais en tout cas,
les têtes tombaient, j'allais dire pour un oui, pour un non, mais d'un autre côté.
C'est-à-dire qu'elles tombaient pour quiconque mettait en cause la révolution ou persistait dans des comportements traditionnalistes, du type royaliste ou du type catholique, dans le sens de la domination de l'Église sur l'État.
Oui, oui, d'accord.
Donc, tout ce qui ressemblait à du curé ou de l'abus de curé ou de l'abus de pouvoir était passé, était passé à la trappe.
Un dialogue des Carmélites, d'ailleurs, on est le témoin. Le texte de Bernanos, là où, où toutes ces femmes qui sont sœurs et qui questionnent à un moment donné, elles passent toutes par la guillotine.
C'est considéré comme des Raif Badawi.
On commence.
Un petit dialogue entre Danton et Robespierre.
S'il vous plaît.
À certains moments, puis c'est probablement un soulagement pour les auditeurs comme ça l'a été pour le lecteur, à un moment donné, l'auteur utilise, on pourrait dire, le style théâtral et donne finalement des répliques.
D'accord.
Donc, pour le lecteur, c'est facile. Alors ici, Robespierre. « Nous avons déjà eu deux révolutions, celle de 1789 et celle d'août dernier. » On est en 1991. Elles ne semblent guère avoir fait de différence dans la vie des gens. Danton. Roland Brissot et Vergniaud sont des aristocrates. Robespierre. Attends. Danton. Dans le nouveau sens du terme, j'entends rien de tel qu'une révolution pour bouleverser la sémantique. Robespierre. Peut-être avons-nous besoin d'une troisième révolution? Danton. Oui, mais pas pour continuer à tergiverser. Robespierre. Absolument. Danton. Tu dis ça, mais avec tes opinions bien connues, tes scrupules, quand il s'agit d'ôter la vie. Robespierre. Sans grand espoir. Le changement ne peut-il être radical sans recours à la violence? Danton, pour ma part, je ne vois pas comment. Robespierre, des innocents risquent de souffrir, à moins que personne ne soit innocent, que ce soit un cliché qu'on emploie sans réfléchir. Et ça continue comme ça.
Exactement.
Là, on sait qui parle et qui dit quoi.
Voilà, c'est ça. Parce que vous, ça, c'était un petit peu votre inquiétude. Hein, vous vous êtes dit, hein, Jacques, mais
dans plusieurs pages.
Vous êtes dit, est-ce que l'auditeur va suivre? Moi, vous savez, dans ces cas-là, j'ai une recommandation à faire.
OK, je vous écoute.
C'est de mettre des personnages connus à la place de ces gens-là. Par exemple, si on prend des comédiens d'ici... Mais si on met, par exemple, dans le rôle de Robespierre, un genre de Gabriel Arcand. Du côté de Danton, allons-y avec Depardieu, qui est aussi connu ici qu'en France, et qui a joué d'ailleurs Danton en France. Donc, alors imaginez des confrontations entre un Gabriel Arcand très rigide. Et alors l'autre, avec cette truculence, très, très Depardienne. Alors voilà, moi je trouve que ça aide à ce moment-là beaucoup à...
C'est ce qu'on essaie de faire.
Les auditeurs nous diront
si on réussit.
Oui, parce qu'il faut qu'ils le sachent. C'est extrêmement difficile. Lire à haute voix et à première vue ce que tous les bénévoles ici font, ce n'est pas donné à tout le monde. Je peux même vous dire qu'il y a des comédiens qui se pètent la figure à essayer de faire ça et qui n'y parviennent pas. Parce que si on joue trop, c'est trop, puis pas assez, c'est pas assez.
Alors, il y a ces enjeux-là au niveau des dialogues. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans l'intime, comme je vous disais, des gens et qu'on, finalement, traverse l'histoire à travers les personnages.
Mon ami Jacques, je sais que le devoir vous appelle. Vous devez vous rendre loin, très loin, à Québec.
Très à vous.
Alors, je vous laisse filer et je vous remercie beaucoup de vous être accroché les pieds dans ce studio.
Ce fut un plaisir, entre autres, de revoir à tête reposée Hilary Mantel et sa révolution, Les Désordres.
Merci. On a pris l'habitude de la recevoir. Recevoir, c'est un bien grand mot parce qu'elle nous appelle de Toronto. Alors évidemment, elle ne va pas faire un long, long détour comme ça pour venir dans notre studio, mais on lui parle au téléphone régulièrement. C'est Corinna Surcel du CAEB. Bonjour Corinna.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, merci. Et vous?
Oui, très bien aussi. Dites-moi, ça a été un automne fructueux en ce qui concerne les prix, les prix littéraires qui ont été remis à droite et à gauche. Et c'est de cela dont vous allez nous parler aujourd'hui. C'est bien ça?
Oui, c'est bien ça, oui. On a, le mois d'octobre et de novembre, on a eu le prix littéraire du gouverneur général et le prix littéraire France-Québec aussi.
Oui, et puis les prix du Salon du Livre de Montréal aussi.
Oui, c'est ça, le Grand Prix du Livre de Montréal.
Bon, alors, parlez-nous de tous ces livres-là.
OK, donc au CAEB, on a eu la chance cette année d'avoir un partenariat avec le Conseil des arts du Canada, ce qui nous a permis d'obtenir le lauréat dans la catégorie roman et dans la catégorie essai pour les langues anglaises et françaises.
Oui.
Et donc, dans la catégorie essai, nous avons le lauréat qui est les yeux tristes de mon camion, écrit par Serge Bouchard.
Oui.
Oui, c'est un livre excellent et je viens de commencer à lire ce livre-là. Je n'ai pas encore fini, mais je l'aime beaucoup.
Je l'ai dévoré, Corinna, et d'ailleurs, j'en ai parlé ici à l'émission. On l'a même reçu, en fait, Serge Bouchard ne se déplace plus tellement, mais il a eu la gentillesse d'accepter de répondre à mes questions et c'est un bonhomme vraiment fantastique, ben, à l'image de son écriture et des histoires qu'il raconte dans ce livre-là.
Oui, j'ai beaucoup aimé l'interview aussi. Il a l'air d'un homme très...
Oui. Absolument, absolument.
Donc, nous avons ce livre dans notre collection maintenant,
oui.
Pour tout le monde, pour le lire.
Oui, il est disponible, bien sûr.
Oui. Cette année, on a aussi eu la chance de rendre disponibles tous les finalistes pour la catégorie roman. Donc, on a Le Plongeur, Le Palais de la Fatigue, 117 Nord, L'Imparfaite Amitié et aussi Le Poids de la Neige, qui est le lauréat de cette année. Et je vais parler juste un petit peu de ce dernier, qui est écrit par Christian Gay-Poliquin, je pense.
Poliquin, oui, c'est ça.
Oui. Et il a connu beaucoup de succès cette année, ayant remporté également le prix littéraire France-Québec, le prix des collégiens, le prix Ringuet de l'Académie des lettres du Québec aussi.
Voilà, oui, en effet.
Oui, très primé. Et les librairies du Québec ont aussi considéré le livre pour leur prix annuel, mais ils l'ont offert au livre Les Plongeurs à la place.
Bon, oui. Donc, mais qui est un très, très bon livre aussi, d'ailleurs.
Oui, hein, très bon. Oui. Puis, on l'a aussi, le plongeur, on a ça dans notre collection aussi.
D'accord.
Et donc, Le Poids de la Neige est un roman post-apocalyptique qui est la suite du roman Le Fil des Kilomètres.
Oui.
Mais il n'est pas nécessaire d'avoir lu Le Fil des Kilomètres pour comprendre la suite. Donc, il vient dans une période où les romans post-apocalyptiques sont en vogue. On a 1984 qui est de nouveau populaire. La Serveuse Écarlate aussi.
Oui.
Des autres romans pour les adolescents qui sont très populaires, qui ont comme thème un thème post-apocalyptique.
Oui.
Donc.
Oui. D'ailleurs, je suis contente parce que ce sont des romans que nous évoquons beaucoup à l'émission ici. Alors, je me dis, oui, alors on est dessus.
Oui. Donc, dans ce roman, Le Poids de la Neige, on est suite à une grande panne d'électricité. Et le pays, l'entier pays est plongé dans la noirceur. C'est l'histoire d'un homme blessé dans un accident de voiture qui est un personnage qui a été introduit dans le premier roman. Et lui, il a besoin d'aide et d'un endroit où habiter, car maintenant c'est l'hiver.
Oui.
Et il est au Québec et il fait froid. Il y a beaucoup, beaucoup de neige. Donc, cette personne se trouve dans la même maison que Mathias, qui est un homme un peu plus âgé et qui prend soin de lui. En échange du bois de chauffage et de la nourriture. Et peu à peu, le blessé va se guérir. Et lui et Mathias deviendront presque amis, presque. C'est un roman qui se lit très vite.
Oui.
Même s'il n'y a pas beaucoup d'action.
Okay.
Parce que la majorité du roman prend place à l'intérieur de la maison qui est entourée par la neige. C'est un très bon livre. Qui parle beaucoup de la neige.
Oui, j'imagine. On est vraiment. C'est parce qu'en plus, il faut s'imaginer que Il n'y a pas d'électricité, donc mmh. on est vraiment obligé de se chauffer juste avec du bois. C'est le noir total hein, à l'extérieur. Oui. Et c'est un huis clos, comme on dit, hein, parce qu'ils sont tous les deux enfermés dans cette espèce de maison-là, qui est plus une cabane d'ailleurs qu'une maison.
Oui, c'est ça.
Et à un moment donné, il neige tellement qu'ils ne peuvent même plus sortir, hein, je pense.
Oui.
Hein. Ils sont vraiment condamnés à s'aimer finalement ces deux-là parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement de toute manière. C'est comme une prison, quoi.
Oui.
Hein, c'est un petit peu.
C'est
ça. Bon.
Et c'est très intéressant parce que chaque chapitre, le titre de chaque chapitre est la quantité de neige.
Ah, ok.
Oui.
D'accord.
Donc, c'est intéressant de voir ça.
Bien sûr, bien sûr. Bon, est-ce qu'il y avait autre chose aujourd'hui?
Non, juste que le CAEB a des livres primés.
Oui.
Donc, nous faisons notre possible d'obtenir au moins les lauréats des prix populaires, surtout mm-hmm. pour les romans canadiens. Et ils sont disponibles à partir de notre site web.
Bon, et alors donc, je précise que c'est disponible via le CAEB et vous allez nous redire ce que signifie l'acronyme CAEB.
Oui, le Centre d'accès équitable aux bibliothèques.
Voilà, et ça, c'est, on parle là d'une accessibilité à de la littérature audio adaptée d'est en ouest, hein, coast to coast, comme on dit, en anglais, mais en français aussi. Hein.
Oui, dans les deux langues.
Exactement, dans les deux langues. Alors, c'est pour ça que c'est bien important. Il y a le SQLA ici au Québec et CAEB, et c'est beaucoup plus large pour les lecteurs et pour les auditeurs francophones qui nous écoutent partout au pays. Eh bien, sachez que via CAEB, vous pouvez avoir accès à tous ces beaux livres-là, et notamment ceux qui ont été primés en 2017. Alors, Corina Surcelle de CAEB, eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Et à une prochaine fois.
Au revoir.
Au revoir. Alors, il était question de cette prison hivernale avec Corina Surcelle. Il sera maintenant question, on va revenir dans les prisons fédérales, que Madame Côté, Marie-Renée Côté, connaît bien, elle qui est venue nous présenter en première partie de cette émission des Livres pleins les oreilles, mémoire d'une gardienne de prison. Et fidèle à la tradition, je voudrais vous en lire un extrait et j'ai choisi le tout début du livre. Ça s'appelle Kingston, le début, en automne 2015, Kingston, Ontario. Après avoir quitté le Collège militaire royal du Canada, mon mari et moi feuilletons le dépliant des attraits touristiques de cette belle ville que nous découvrons aujourd'hui. Nous avons du temps. Pourquoi ne pas aller au musée du service correctionnel du Canada ? Me propose-t-il. Pas certaine que cela m'intéresse. Je passe ma vie en prison depuis presque 20 ans. Mais je peux faire ça pour mon mari. Il aura ainsi une idée de mon milieu de travail, tout compte fait, sa proposition n'est pas mauvaise. Allons-y. Le musée est situé devant l'établissement de Kingston, au bord du lac Ontario. Ce vieux pénitencier mythique a été fermé en 2012, il y a quelques années à peine. Un bâtiment impressionnant, magnifique. Il ressemble à celui de Saint-Vincent-de-Paul, que je longe tous les matins pour aller travailler. Même si je suis loin de Laval, en cet après-midi ensoleillé, je me sens chez moi ici, entouré de béton, de murs de pierre et de drapeaux du Canada flottant au vent. Les autres visiteurs semblent craintifs à l'idée d'entrer dans le musée. Ils ont l'air effrayés lorsqu'ils ouvrent la porte. À ce moment-là, je constate que, en ce qui me concerne, j'y suis entré comme dans une épicerie. On s'habitue à tout. À voir ce qui est exposé, boulets, armes artisanales, caches, instruments de torture du siècle dernier, je parie que les visiteurs continueront d'avoir peur du milieu carcéral canadien. Mon mari est néanmoins impressionné. Pour ma part, je trouve, comme toujours d'ailleurs, que le monde des gardiens est passé sous silence. Ils sont oubliés. Seuls leurs menottes, garcettes ou autres bâtons servant à châtier les détenus sont montrés au public. Les garcettes, ce sont, je vous cite la note qui est en bas de page, une garcette, c'est une petite matraque souple que les gardiens de prison portent à la ceinture, en cas de besoin, bien sûr. Or, écrit Madame Côté, je ne me reconnais pas dans ces objets, comme si nous, gardiens, n'étions là que pour effectuer le supplice de la goutte ou enfermer les détenus dans la tombe verticale, selon la punition infligée par la loi. Je ne suis pas d'accord avec cette façon d'illustrer le rôle des gardiens dans un lieu où doivent être gardées les personnes qui enfreignent les lois et commettent des crimes graves. Un silence presque total règne dans cette grande maison reconvertie en musée qui, à une époque pas si lointaine, était réservée au directeur du pénitencier de Kingston. Les visiteurs murmurent à peine. Tout semble figé dans le temps. Nous pouvons suivre l'évolution du système carcéral au fil des ans, mais sans le vivre, car ici, il n'y a pas de vie. C'est ça, il manque la vie de ceux qui habitent en prison et de ceux qui y travaillent. Je me rends compte que mon mari en a assez. Avant de sortir, il me demande « Comment tu fais pour travailler là-dedans ?» Je réfléchis. Je choisis de lui répondre que j'ai tout de même du plaisir de temps en temps. Lui raconter que je vis réellement au quotidien ne ferait que lui faire craindre le pire quand je pars le matin pour aller gagner ma vie. Lui raconter ce que je vis réellement au quotidien ne ferait que lui faire craindre le pire quand je pars le matin pour aller gagner ma vie. Je ne voudrais surtout pas qu'il croie que j'exagère. Je suis trop fière pour accepter qu'il doute de ce que je lui raconterai. Comme les écrits restent, j'ai souhaité rassembler dans ce livre les moments cocasses et hors de l'ordinaire que j'ai vécu au cours des 20 dernières années à l'intérieur des murs. C'est parfois drôle et surprenant, par moments triste et dérangeant, mais toujours vrai. Et effectivement, c'est exactement la remarque que je passais à Madame Marie-Renée Côté. Si vous avez manqué la première partie de cette émission, je vous recommande peut-être de l'entendre quand bon vous semblera en allant visiter notre site internet par le www.vuesetvoix.com, émission des livres plein les oreilles. En vue de la semaine prochaine et de mon invité, Jacques Semelin, que je vais recevoir, qui est un aveugle, qui a écrit un livre assez formidable qui s'appelle « Je veux croire au soleil », que je suis en train de lire, je dirais, avec avidité. Jacques Semelin, donc, je voulais vous en parler tout de suite parce que c'est à ne pas manquer. La réalité quotidienne de ce non-voyant est un pays étranger. Quel est son rapport au monde? C'est quelque chose, évidemment, qui va parler à beaucoup d'entre vous. Hein. C'est quelque chose que vous connaissez, mais il n'y a pas beaucoup de non-voyants qui ont mis sur papier toutes leurs sensations en tant qu'aveugle et surtout en tant que grand voyageur, parce que M. Semelin est un grand voyageur et donne des conférences dans le monde entier. Et d'ailleurs, là, cet automne, il est à Montréal, il repart un peu plus tard en décembre, et c'est pour ça que nous profitons de sa présence pour le kidnapper quelques minutes dans notre studio de l'émission des livres plein les oreilles. Un tout petit extrait, tiens, nous sommes en page 52 de ce livre qui s'appelle « Je veux croire au soleil ». Me voici sur le trottoir, plutôt à l'aise, même s'il n'est pas très large. Je commence ma progression dans la direction d'une épicerie que m'a indiqué la propriétaire. Quand vous avancez ainsi dans le brouillard, vous allez nécessairement rencontrer des ennemis. Les traîtres restent le plus souvent silencieux, puis paf, ils frappent par surprise. Ce sont ces poteaux, plots, échafaudages qui se dressent sur votre passage. Quand je m'expose dans la rue, j'adopte donc ma posture de guerrier, surtout en milieu étranger. Je mets d'abord mon casque, qui est un chapeau à large bord, lesquels me servent d'antenne et de protection à hauteur du visage. C'est comme un pare-choc. Quand je vous dis que ça va beaucoup nous parler, à nous, voyants, et puis vous parler à vous, non-voyants. Jacques Semelin, « Je veux croire au soleil », ne manquez pas ça, c'est la semaine prochaine. Et puis quelques titres en rafale pour finir cette émission. On va commencer par Michaël Delisle, qui nous offre cette fois-ci un recueil de nouvelles qui s'intitule « Le palais de la fatigue ». Voir un homme abandonner son œuvre me fait de la peine. C'est mon côté hystérique. C'est pour ça que je persiste, même si le terme se dessine. Je travaille avec une ambition de plus en plus élémentaire. J'écris pour voir à quoi la vie ressemble une fois écrite. Eh bien, c'est l'une des nouvelles que nous raconte Michaël Delisle. Par exemple, donc, cette histoire de cet homme qui est bouleversé, cet écrivain bouleversé de voir un de ses amis photographes de grand talent décider de mettre un terme à son œuvre. Le palais de la fatigue, nouvelle de Michaël Delisle. Encore un autre grand succès pour Guillaume Musso, Un appartement à Paris, c'est son nouveau thriller. L'art est un mensonge qui dit la vérité. Paris, un atelier d'artiste caché au fond d'une allée verdoyante. Madeleine l'a loué pour s'y reposer, pour s'y isoler. Et à la suite d'une méprise, cette jeune flic londonienne y voit débarquer Gaspard, qui est un écrivain misanthrope, venu des États-Unis pour écrire dans la solitude. Ces deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelques jours. Un appartement à Paris, de Guillaume Musso. Carnet de naufrage de Guillaume Vigneault. Alex y voyait déjà dans sa maison de campagne à élever des poules, des chiens et quelques enfants. Et au centre de tout, dans chaque recoin de l'air, il y avait Marlène. Elle était son encre, l'échine de sa vie. Alors, quand Marlène le quitte, Alex sombre, mais au lendemain du naufrage, il refait surface dans un océan dont il ne reconnaît plus la houle étrange. C'est à lire vraiment que, que ces carnets de naufrage de Guillaume Vigneault, j'avais déjà lu ça il y a quelque temps, et c'est un véritable régal. Alors, je voudrais remercier mes invités qui, encore une fois, m'ont drôlement bien épaulé aujourd'hui et nous permettent, je pense, hein, semaine après semaine, de vous offrir de belles émissions littéraires. Il y avait Gérald Cousineau, il y avait Jacques Tremblay, il y avait Marie-Renée Côté et Corinna Surcel de Caeb. Je voudrais aussi remercier Mathieu Tessier qui est de l'autre côté de la vitrine, qui fait toujours un boulot exceptionnel et c'est très plaisant de travailler avec toi, Mathieu. Voilà, c'était Clotilde Sey qui vous souhaite une belle semaine et de belles lectures. Et j'ai déjà très hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Salut!